On va parler aujourd'hui de l'évolution des mammifères. Et oui, on a longtemps cru que si les mammifères ont prospéré, c'est parce que les dinosaures, ces grands sauriens qui ont dominé la chaîne alimentaire pendant des millions d'années, avaient été rayés de la carte par un astéroïde venu percuter la Terre en entraînant une extinction de masse. Mais il s'avère en fait que les premiers mammifères sont là depuis plus longtemps qu'on ne le croyait, et que l'histoire de leur émergence jusqu'à celle de leur domination réserve de nombreuses surprises. Pourquoi et comment les mammifères se sont-ils imposés dans l'évolution ? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour retracer l'histoire de cette branche qui a commencé par des sortes de petits rongeurs nocturnes et qui a fini par imposer sa loi à l'ensemble du règne animal, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Cécile Lestienne. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde.
Directrice de la rédaction du magazine Pour la Science qui consacre son dossier du mois justement au surprenant succès des mammifères au temps des dinosaures. Nous sommes également avec Emmanuel Garbrandt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléomammologue, vous travaillez au centre de recherche sur la paléobiodiversité et les paléo-environnements au Muséum d'Histoire Naturelle. Et nous sommes également avec Maxime Debuchard, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes docteur en paléontologie également au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous avez soutenu précisément votre thèse sur les premières formes de mammifères. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez toujours, comme chaque jour, nous suivre en direct sur Twitter, @laméthodefc. Alors, je le disais en présentation, on a longtemps pensé que les mammifères étaient apparus. Grosso modo, une fois que les dinosaures ont débarrassé le plancher, c'est en fait beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Mais est-ce qu'on sait de façon certaine aujourd'hui quelle était la première forme de mammifère et à quelle époque elle est apparue, Emmanuel Garbrandt?
Les premiers mammifères sont apparus à la fin du Trias, vers 220 millions d'années, en même temps que les dinosaures. Dès le moment de leur apparition, ils sont représentés par trois grands groupes, ce qui indique d'ailleurs qu'ils sont probablement apparus encore antérieurement. Ils sont représentés par des animaux qui ont peu de choses à voir directement avec ceux qu'on connaît aujourd'hui, même s'ils partagent une souche commune, et par essentiellement des petites espèces de la taille d'une musaraigne, et qui étaient essentiellement insectivores, avec un groupe particulier qu'on appelle les araméidés, qui avait probablement un régime un peu plus varié, avec probablement des végétaux à la base.
Je me retourne vers vous, Maxime Debuchard. C'est une vraie surprise, cette antériorité des premiers, on va dire, de quoi, des proto-mammifères, si vous m'autorisez ce terme-là. On ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent d'aussi loin, en fait.
Oui, effectivement. Au moment de la découverte des vraiment plus anciens mammifères, ça a été une surprise, mais cette découverte remonte quand même déjà assez longtemps. Mmh. Déjà au début du 19e siècle, on savait qu'il y avait déjà des mammifères qui existaient dans cette période du Mésozoïque. Et même déjà à la moitié du 19e siècle, on savait que, voilà, au Trias supérieur, il y a un peu plus de 200 millions d'années, ils étaient déjà présents. Toutefois, malheureusement, le matériel était assez difficile à étudier. Ce sont vraiment des tout petits restes, des toutes petites dents isolées, qui sont un peu perdues. Et ils sont difficiles à étudier, difficiles à comparer avec du matériel plus récent. Et c'est pour ça que pendant longtemps, l'image est restée un peu biaisée et que c'est plus récemment qu'on a réussi à avoir quelque chose de plus net et de plus concret à leur sujet.
Alors, concrètement, vous disiez, Emmanuel Garbrandt, qu'on suppose qu'ils venaient de plus loin parce que il y a déjà trois branches à cette époque-là. Donc, on est au Trias supérieur, il y a plus de 210 millions d'années. Ça ressemble à quoi à cette époque-là, ces animaux-là? On ne parle pas encore de mammifères,
hein. On parle de mammaliaforme. En fait, on parle pas de mammifères. C'est un peu une coquetterie. Ces animaux étaient plus apparentés aux mammifères actuels qu'à tous les autres groupes, aux reptiles et aux principaux grands groupes d'autres vertébrés qui existaient à l'époque et encore aujourd'hui. Bon, on appelle ça les mammaliaformes. C'est un peu barbare. ça veut simplement dire que ce sont des branches extrêmement archaïques qui se sont détachées avant la naissance des groupes qui sont représentés aujourd'hui, des grands groupes, des trois grands groupes qui sont représentés aujourd'hui, qui sont à la fois le groupe des monotrèmes, donc les mammifères actuels qui pondent des œufs.
Il en reste plus beaucoup de ceux-là.
Il en reste 3-4 espèces, essentiellement confinées à l'Australie et à la Nouvelle-Guinée. Voilà.
Ensuite, l'espèce représentative de ces monotrèmes, c'est
l'ornithorynque, le célèbre ornithorynque.
Voilà. Qui effectivement vient d'il y a très très longtemps.
Voilà, voilà. Et d'ailleurs, qui est assez remarquable dans le sens où il a gardé un des caractères qu'on a retrouvé chez les mammifères mésozoïques, qui est assez étonnant, c'est qu'il a un pouce au pied, qui a un pouce venimeux, et qui caractérise beaucoup des mammifères mésozoïques qu'on a découverts pendant le Crétacé, le Jurassique. Mais, essentiellement, les groupes qui sont apparentés plutôt aux mammifères archaïques, ces premières branches, et aux monotrèmes, mais pas aux branches à laquelle on appartient, la branche des marsupiaux et des placentaires, c'est-à-dire la grande branche des terriens, qui ont perdu ce pouce.
Alors, Cécile Lestienne, donc vous avez consacré ce grand dossier au surprenant succès des mammifères au temps des dinosaures. Qu'est-ce qui a attiré votre œil? Pourquoi est-ce que vous êtes engagé à raconter cette histoire? Parce que c'est vrai que c'est une histoire qui nous a beaucoup plu, une histoire très complexe. Quand vous avez fait sur une double page un arbre évolutif, et c'est plus qu'un arbre, on pourrait presque parler d'une forêt tellement il y a de branches dans tous les sens.
Absolument, c'est parce que nous avons eu donc l'occasion de publier un article de deux autres paléontologues qui ne sont pas français, Stéphane Prusat qui est en travail à l'université d'Édimbourg en Écosse et Zexy Lud qui est un paléontologue à l'université de Chicago. Et en fait, ce qui nous a fasciné dans cette histoire, c'est que je crois qu'on a appris des choses nous-mêmes, heureusement, voilà, et qu'on savait depuis longtemps effectivement qu'il y avait ce n'était pas des musaraignes, mais ces sortes de petites bêtes qui ressemblent à nos musaraignes d'aujourd'hui. Et j'avoue que je n'imaginais pas qu'il y avait une telle diversité de mammifères il y a si longtemps. Et ce que je trouve étonnant, c'est que l'évolution, on a l'impression qu'elle rebat plusieurs fois les mêmes cartes, puisqu'effectivement, elle a fait apparaître des formes qui ressemblent à nos formes actuelles, mais qui ne sont pas du tout nos formes actuelles et qui ont complètement disparu.
Et qui n'ont pas évolué depuis la même branche. C'est-à-dire que c'est ce que vous décrivez, les petites musaraignes, il y en a qui ressemblent à des écureuils volants, mais ça n'est pas la même branche.
Voilà, exactement. Mais vous allez nous expliquer ça mieux que moi. Mais voilà, quand on regarde les reconstitutions qu'on fait à partir des fossiles, on a l'impression qu'on pourrait les croiser en regardant bien dans le jardin d'à côté.
Presque. Alors, pour comprendre cette histoire qu'on va essayer de raconter dans l'heure qui vient et qui est une histoire assez captivante, je vous propose de remonter le temps. On va faire ça dans l'ordre pour que les gens suivent bien, parce que nous, on a cet arbre sous les yeux, mais on va essayer de le raconter, cet arbre évolutif avec vous trois, Cécile Lestienne, Emmanuel Gerbrandt et Maxime Debuchère. Alors, vous le disiez, donc, les tout premiers, ils évoluent de quoi d'abord? Ils viennent de quelle branche, ces premières formes? Je me retourne vers vous, Maxime Debuchère. Ça se sépare de quelle branche pour commencer à se spécifier? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive dans cette famille des mammaliaformes? Quel est le point de rupture dans la séparation des espèces?
Alors, ces premiers mammaliaformes, évidemment, n'apparaissent pas nulle part. Ils dérivent d'un groupe qu'on appelle les cynodontes. Un groupe qui déjà leur ressemblait pas mal. On donne souvent l'image de la musaraigne pour parler des premiers mammifères. Bon, les cynodontes avaient aussi un peu ce gabarit-là. C'est aussi des petits animaux qui étaient déjà très diversifiés, qui présentaient déjà certains caractères qu'on associe souvent aux mammifères. Certains caractères osseux, par exemple, ils avaient une mâchoire qui est constituée d'une certaine manière, caractéristique des mammifères, avec un os en particulier qui est très développé. Et ensuite, c'est justement durant cette période du Trias supérieur que l'apparition des mammaliaformes, des premiers mammaliaformes, se fait. Alors, à quoi est-ce qu'on les reconnaît? Qu'est-ce qui est vraiment la caractéristique des mammaliaformes? Ça a vraiment été un débat qui a duré très très longtemps. Et en fait, il y a plein de caractères qu'on pourrait citer, qui pourraient donner plus ou moins une bonne idée. Il y en a un qui a particulièrement retenu l'attention des paléontologues dans les décennies précédentes. C'est l'articulation de la mâchoire avec le crâne. Il faut savoir que chez la plupart des vertébrés, la mâchoire inférieure est constituée de plusieurs os. Il y a parfois jusqu'à une dizaine d'os qui constituent cette mâchoire. Et il y a un os en particulier qu'on appelle l'articulaire, parce qu'il fait l'articulation avec un os du crâne. Toutefois, chez les mammifères, la composition est très différente, car la mâchoire inférieure est constituée d'un seul os, qu'on appelle le dentaire, tout simplement parce que c'est lui qui porte les dents. Et en fait, déjà avant, chez les cynodontes, et même chez des groupes encore plus anciens, on observe un développement de ce dentaire qui s'accroît en longueur petit à petit et qui repousse les autres os vers vraiment la fin de la mâchoire. Il repousse petit à petit jusqu'à les faire complètement sortir. Et c'est justement à ce moment-là, au trias supérieur, que ce dentaire est assez grand pour entrer en contact avec le crâne et un os en particulier qu'on appelle le squamosal. Et donc cette articulation dentaire squamosale est très caractéristique des mammifères et elle devient fonctionnelle, voilà, il y a 210 millions d'années. C'est pour ça qu'on parle, entre autres pour ça qu'on parle de mammaliforme à ce moment-là.
D'accord. Et puis il y a une autre conséquence de ce recul de la mâchoire, c'est que ça va aussi modifier l'ouïe, c'est ça, hein, Cécile Lestienne, vous le racontez.
Oui, mais du coup, j'aurais bien continué sur cette histoire de mâchoire, justement. En fait, qu'est-ce que ça a apporté? Moi, si j'ai bien compris, ça a permis aussi de mâcher, justement. Si j'ai bien compris, les cynodontes avalaient un peu tout rond, autant qu'on puisse le savoir.
Alors, qui répond, Emmanuel Garbrand?
Oui, alors ce qui est intéressant dans cette histoire de l'évolution du dentaire et l'articulation entre le crâne et la mâchoire, c'est qu'on pensait que c'était le caractère clé des mammifères. Donc, qui allait permettre de définir l'ensemble des mammifères. Et puis, on s'est rendu compte, grâce aux découvertes fossiles, de l'intérêt, encore une fois, de faire des recherches de terrain, qu'il y avait des formes intermédiaires qui montrent une évolution parallèle dans deux grands groupes. C'est le groupe des monotrèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Les branches les plus basales des monotrèmes avaient encore une articulation, une double articulation. Mm-hmm. Et de la même façon chez les terriens, donc les marsupiaux, les plus anciens représentants des marsupiaux et des placentaires.
Alors les terriens, il faut dire pour nos auditeurs, c'est T-H-E-R-I-E-N, c'est pas les habitants de la Terre.
Non,
les terriens, c'est une famille qui donnera lieu, qui va se scinder ensuite entre les marsupiaux et les placentaires dont nous faisons partie.
Voilà, c'est ça. Et donc, on s'est rendu compte que ce caractère considéré comme clé pour la définition des mammifères a évolué de façon convergente dans ces deux branches. Ce qui est intéressant maintenant d'un point de vue plutôt fonctionnel dans cette évolution, c'est que les os qui appartenaient à la mâchoire inférieure ont été intégrés dans l'oreille moyenne. Et c'est là où ça a eu un rôle fonctionnel et adaptatif extrêmement important chez la mammifère moderne, dans la mesure où ça a permis une évolution du sens auditif extrêmement spécialisé, y compris avec le développement de l'écholocation chez certains groupes comme les chiroptères, qui n'existaient pas chez les formes plus primitives de mammifères.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là on vient de parler un peu en vrac de ces deux traits, mais ces deux traits importants qui vont jouer un rôle important dans l'évolution de ces mammifères primitifs jusqu'aux formes plus tardives, c'est d'une part, ce que disait Cécile Lestienne, les dents, et d'autre part l'ouïe. C'est vraiment deux traits caractéristiques qui vont marquer petit à petit la spécialisation et la diversification de ces espèces, Maxime de Bucher.
Oui, ces deux traits sont très importants. Toutefois, ce sont pas vraiment les seuls. Il y a d'autres traits qui se développent fortement à ce moment-là, enfin, qui sont supposés être apparus à ce moment-là. Sauf que ces traits, pour notre plus grand malheur, se conservent très mal sur les fossiles, qu'il s'agit de traits qui ont lié à tout ce qu'on appelle les tissus mous, tous les organes. Et donc, en particulier, ce sont les poils, c'est la température corporelle constante, c'est l'allaitement. Pour lesquels donc on est réduit à des suppositions. C'est pour ça qu'on fait un gros focus sur ces deux traits-là, parce que eux, par contre, se conservent assez bien dans le registre fossile.
Et alors, Cécile Lestienne.
Justement, on a bien retrouvé des dents de lait, non, datant de cette époque aussi lointaine, ce qui prouve. Enfin. Est-ce qu'on peut conclure que si on trouve
alors,
il y a des dents de lait, il y a tout
le monde? Alors le lien précisément, parce qu'il faut dire que donc ce que vous évoquiez tout à l'heure, les cynodontes, les dents des cynodontes poussaient continuellement, c'est ça?
Tout à fait.
Et d'un seul coup,
un renouvellement continuel de leur dentition qui se faisait sur un cycle plus ou moins important. Mais donc voilà, un seul individu pouvait avoir plusieurs dizaines de dents au cours de sa vie, ce qui n'est pas le cas des mammifères. Nous sommes bien placés pour le savoir. Nous avons deux jeux de dents au cours de notre vie et ça s'arrête là. Et effectivement, c'est à peu près à ce moment-là, c'est au moment de l'apparition des mammifères, que se fait le grand changement et qu'on observe chez les animaux une diminution du nombre de dents au cours de la vie de l'animal et qu'on arrive à ce qu'on appelle techniquement la diphyodontie, donc juste avoir deux jeux de dents. Ce qu'on associe à l'allaitement, car justement, ces réductions, ce changement dans le développement des dents, dans le remplacement des dents, est important pour l'allaitement. Il faut que le jeune nouveau-né n'ait pas de dents pour pouvoir allaiter sa mère sans risque. Il y a aussi un autre élément, c'est que ça a déjà été, Célestine l'a déjà rapidement évoqué un peu plus tôt, le rôle de la mastication. Et justement, la mastication devenant complexe chez ces premiers mammaliformes, eh bien, le renouvellement continuel des dents ne devient plus possible. Car à ce moment-là, il commence à avoir des problèmes pour justement mâcher la nourriture. Si on commence à avoir des trous dans la rangée dentaire, ça devient plus possible. D'où cette réduction dans le nombre de dents.
Alors, ça mange quoi ces mammaliaformes? On parle encore une fois voilà, des cynodontes d'une part, et puis ensuite ça va se diversifier vers des mammifères, et puis enfin, les terriens, on n'avance pas trop vite. On est encore à la fin du Trias, on est encore avant l'extinction, parce qu'il va y avoir deux extinctions, donc on va arriver bientôt à la première. Emmanuel Gerbrandt, qu'est-ce que ça change du coup cette structure dentaire?
La structure dentaire, elle est fondamentale car elle est adaptée au type de nourriture. Donc, chez les formes les plus anciennes, on a, disons, deux types morphologiques dominants. Des dents avec des pointes et des crêtes qui permettent de piquer et de couper, et donc qui vont avoir surtout un fonctionnement vertical. Et des dents chez les araminidés qui sont un peu plus compliquées avec une multiplication de cuspides et qui ressembleraient plus à des râpes.
Je parle voilà. Alors des cuspides, pour les auditeurs, précisons, qu'est-ce que c'est?
Ce sont des pointes. Des
voilà, ce sont des voilà. petites pointes. Des... Voilà.
Donc il y a une multiplication de pointes chez ces animaux, les araminidés, qui leur permet un fonctionnement un peu plus complexe avec pas seulement que des mouvements verticaux, mais aussi des mouvements d'avant en arrière. Et donc ça permet d'accéder à un autre type de nourriture, et en particulier un type de nourriture à base de végétaux et plus seulement d'insectes, par exemple.
Donc ça signifie que ces cynodontes, ces mammaliformes, ils sont omnivores déjà?
Globalement, oui. Alors c'est quand même plus précis que ça, parce qu'ils ont quand même déjà un certain degré de spécialisation. Par exemple, pour les aramides, comme il le dit Emmanuel, voilà. Alors, il a utilisé l'image de la râpe. Je préfère celle de la meule pour montrer le fonctionnement de leurs dents. Donc voilà, vraiment, leur alimentation vraiment végétale, ils prennent le végétaux entre les dents et ils les broient comme le fait une meule. Par contre, l'autre type morphologique que Emmanuel a rapidement décrit, qui fonctionne plus avec un système de pointes et de crêtes, qui fonctionne en fait un peu comme des ciseaux, est plus adapté à un régime insectivore. Mais même à ce niveau-là, dans ce grand groupe morphologique, on a déjà réussi à identifier certaines spécialisations. Et justement, dans le dossier du Pour la Science, il y a un article qui est cité, qui est paru dans Nature en 2014, si je ne me trompe pas, et dans lequel on montre que ces animaux étaient plus adaptés pour avaler des insectes avec des carapaces plutôt résistants, donc pouvoir exercer des pressions plus importantes avec leurs dents, tandis que d'autres, au contraire, ne pouvaient pas accéder à ces pressions plus importantes et donc réduits à des insectes avec un corps plus mou, tels que les vertes terres ou les limaces.
Cécile, vous vouliez...
Je pense qu'on va reparler des dents, parce qu'après, les dents sont très, très importantes chez les mammifères. Vous parliez de toutes les parties molles qui se conservent mal, mais quand même, avec les techniques actuelles, on commence à pouvoir mieux scanner, par exemple, l'intérieur des boîtes crâniennes quand on en retrouve, etc. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'on peut déjà voir, c'est ces formes très anciennes, que leurs aires auditives, justement, les bulbes olfactifs étaient déjà plutôt mieux développés que leurs concurrents.
Maxime de Bichard.
Oui, effectivement, c'est des choses qui sont possibles maintenant avec les merveilles de développement des technologies 3D et de CT scan, qui permet d'accéder à l'intérieur de la boîte crânienne sans abîmer le fossile. Donc on obtient vraiment un modèle en 3 dimensions qui permet de bien visualiser l'intérieur de cette boîte crânienne. Et grâce à cela, on peut avoir une idée de la forme du cerveau. Alors vraiment une idée, parce qu'en fait, le cerveau n'est pas seul dans la boîte crânienne. Il y a des nerfs, il y a des vaisseaux sanguins, il y a des tissus qui le gardent en place. Donc on a une forme grossière du cerveau, mais qui permet effectivement d'identifier certaines aires, parfois spécialisées. Et il y a certaines études qui ont pu montrer, effectivement, chez ces premiers mammaliaformes, un développement assez important des aires liées, effectivement, à l'olfaction et à l'audition, donc le sens de l'odorat et l'ouïe.
Alors, il faut donc préciser que, on le disait tout à l'heure, on est donc à la fin du Trias, donc aux alentours de 200 millions d'années, c'est encore la Pangée. La Terre est encore, c'est la fin de la Pangée à peu près, c'est ça, je dis pas de bêtises, Emmanuel Gerbrandt?
Oui, absolument, on est à la fin de la Pangée, tout début de la séparation de la Pangée entre deux grandes masses continentales, au nord la Laurasie et au sud le Gondwana. Et ça va se passer au début du Jurassique.
Et alors, justement, survient une extinction, c'est pas la première, c'est l'avant-dernière, si on prend pas en compte celle de l'Anthropocène, l'avant-dernière grande extinction de masse qui est connue la planète. Comment et pourquoi est-ce que ces mammaliaformes survivent à cette extinction qui touche quand même un grand nombre d'espèces animales et végétales, Maxime de Buchère?
Alors, en fait, vous mettez pile le doigt dans un grand débat. Je suis désolé, mais il n'y a pas de réponse simple à ce niveau-là. En fait, c'est encore très discuté.
C'est pour ça que c'est intéressant.
C'est pour ça que c'est très intéressant. Et du coup, pour expliquer un peu la nature du débat, il faut savoir que ces grandes crises d'extinction massive ont été essentiellement identifiées sur la base des faunes marines. Donc on a observé tout ce qui est justement les faunes de poissons, de mollusques qui vivent dans l'eau.
Jusqu'à 90% de disparition d'espèces marines, hein, si je ne me trompe pas, sur cette extinction-là.
Sur cette extinction-là, j'ai un peu du doute, mais bon.
On va
passer sur ça. Donc, ces crises sont identifiées dans le domaine marin. Et ensuite, on fait l'hypothèse qu'elles sont également présentes dans le domaine terrestre. Ça se vérifie pour beaucoup de ces crises. On va parler de l'une d'entre elles dans pas longtemps, il y en a eu d'autres encore auparavant.
75% des espèces marines, 35% des familles d'animaux.
Voilà. C'était ça. Et donc cette crise-là, malheureusement, est encore très discutée dans le domaine terrestre. Et il y a beaucoup de papiers qui sortent assez régulièrement, on essaye de faire le bilan et de dire, voilà, en observant toutes les faunes d'animaux et de végétaux terrestres, est-ce qu'on arrive à observer vraiment un phénomène de crise ? Et bah, il y a du pour et du contre, donc on est toujours dans le débat, on n'est toujours pas sûr qu'à ce moment-là, pour les mammaliformes, il y a véritablement une crise.
On suppose que cette extinction est due justement à la séparation de la Pangée, donc à une activité volcanique extrêmement intense qui aurait poussé, c'est à peu près ça la théorie actuelle, Emmanuel Gerbrand.
Pour la crise Permotria, je ne peux pas dire, je connais pas bien. Pour, par exemple, la crise Crétacé-Tertiaire, c'est un tout autre mécanisme.
Oui. Puisque, on en parlera tout à l'heure, parce que les mammaliformes, les mammifères ont encore survécu à cette crise-là.
Je ne sais pas s'il n'y a pas une intervention de phénomène climatique à cette époque. Maxime peut en parler.
Maxime.
Pour ce qui est effectivement de cette crise de la fin du Trias, il y a plusieurs phénomènes qui sont suspectés. Il y a plusieurs coupables actuellement qui sont interrogés vivement. L'un des principaux est justement lié, comme vous le disiez, justement à la séparation de la Pangée, la séparation de ces deux grandes masses continentales, car au niveau de la scission de ces masses continentales, on observe effectivement un grand événement volcanique qui a donc qu'on appelle la province magmatique centrale atlantique, parce que actuellement elle correspond au centre de l'Atlantique. Et c'est donc une province magmatique parce qu'elle couvre une énorme zone. On trouve en fait des éléments de cet événement sur l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ça couvre une énorme surface, et qui dit éruption très importante dit énormément de gaz volcanique projeté, donc modification du climat. Donc effectivement, actuellement, c'est le principal suspect, avec d'autres conséquences potentiellement liées à l'ouverture de la Pangée, comme par exemple la modification des courants océaniques qui peuvent aussi avoir un impact sur le climat.
Et alors, est-ce que vous pouvez me dire, à cette époque-là, j'ai trouvé un nom, qui est Mégasostrodon ?
Mégasostrodon.
Maxime Bichère, qui est donc Mégasostrodon ? Ça n'est pas un monstre d'une série Z japonaise, mais ça pourrait presque avec un nom pareil.
Ah, presque, il a un joli nom, il pourrait parfaitement postuler pour le casting. Mégasostrodon, simplement, c'est l'un des mammaliaformes du Jurassique inférieur qui est le mieux connu. Alors, je vais préciser parce que justement, Mégasostrodon est connu essentiellement dans le Jurassique inférieur.
Donc après cette première extinction.
Après cette première extinction. plus précisément, il a été découvert en Afrique du Sud. Et on le connaît grâce en particulier à un squelette presque complet, chose qui est assez rare pour les animaux de cette époque de trouver du matériel aussi complet.
Et alors, pourquoi il est important et pourquoi est-ce qu'on le connaît aussi bien ? Qu'est-ce qu'il dit justement après ce phénomène d'extinction, de la survie ou de la nouvelle perspective évolutive de ces, on va parler maintenant, puisqu'on est au Jurassique inférieur, de mammifères et plus de mammaliformes, c'est ça ?
Pas encore, tout à fait.
Je vais un peu trop vite en besogne.
Mégasostrodon reste un mammaliaforme.
D'accord.
Et ce qui nous apprend, lui et d'autres spécimens découverts dans le Jurassique inférieur, simplement, c'est que justement ces mammaliaformes passent très bien à la crise. C'est que beaucoup de ces groupes connus avant, à toute fin du Trias, sont encore connus au début du Jurassique.
Ils survivent. Cécile ?
Et puis surtout, ce qui nous avait fascinés, c'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est que quand même après, il y a une diversification assez vraiment étonnante et impressionnante. En tout cas, c'est ce que nous racontent les fossiles, avec tous ces animaux qui ressemblent à des écureuils volants, à des castors, à des chiens, à des c'est qui montre au moins qu'ils ont se sont installés dans diverses niches écologiques.
On parle d'explosion évolutive, Emmanuel Gerbrand, c'est ça ?
Oui, ou de radiation adaptative.
Ah, voilà. Comme... Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe exactement ?
Alors, je vais juste revenir sur ce qui vient d'être dit. Ce qui est très important à comprendre, c'est que il y a 20 ans, les archives fossiles sur l'histoire évolutive des mammifères mésozoïques étaient encore très déficientes. Les plus beaux restes provenaient en particulier du Jurassique inférieur, avec par exemple Mégasostrodon, mais c'était une exception. C'était largement une exception. La plupart des autres espèces qui étaient décrites l'étaient sur des restes de dents isolées et dans les meilleurs cas des fragments de mâchoire, voire exceptionnellement des crânes. Donc ça, c'était la situation il y a 20 ans. Et puis, il y a eu des découvertes extrêmement importantes à plusieurs endroits, mais plus particulièrement en Chine, où on est tombé sur des gisements qui sont des gisements à caractère de conservation exceptionnel, et où on a découvert des squelettes entiers, non plus des crânes, non plus des dents, mais des squelettes entiers, et qui plus est, avec les parties molles. Donc on a accédé d'un seul coup à une quantité d'informations absolument exceptionnelle, dont on n'avait pas la disposition, puisque avec les restes dentaires et crâniens, on avait surtout accès, du point de vue adaptatif, au régime alimentaire. Là, avec les squelettes, on a commencé à avoir des informations sur les modes locomoteurs. Et c'est ça la grande nouveauté, c'est que ces squelettes nous ont renseigné, nous ont illustré tout un tas de types adaptatifs locomoteurs différents qui n'étaient pas du tout attendus pour le mésozoïque, qui étaient connus au tertiaire, pendant toute l'histoire des mammifères modernes du tertiaire, mais qui étaient absolument inattendus pour le mésozoïque. Et donc c'est là où, justement, on a mis au jour des adaptations comme des animaux qui se nourrissaient de poissons, des animaux fouisseurs, des animaux arboricoles, des animaux, et même le plus spectaculaire, des mammifères capables de voler, de planer, comme le volaticodens, qui est un trichonodonte. Donc ça a été vraiment un bond en avant dans la connaissance d'histoire évolutive des mammifères en général, et en particulier des mammifères mésozoïques. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre que ces adaptations ont plus développé dans des lignées totalement primitives, pratiquement très différentes des groupes modernes, mais elles se sont développées en convergence avec ce qui va se passer après, au début de l'histoire des mammifères modernes, au début du tertiaire.
Alors, on va continuer à explorer un peu cette époque du Jurassique, donc, et cette explosion évolutive. Au Jurassique, les mammifères ont évolué jusqu'à deux fois plus vite que les mammaliaformes de l'ère précédente, du Trias. On comprend pourquoi il y a cette espèce d'explosion donc évolutive, comme je le disais tout à l'heure. À quoi elle correspond après cette extinction qui vient d'avoir lieu, Emmanuel Guerbrand Maxime de Bichère.
Malheureusement, cette grande radiation, on la comprend encore assez mal. En fait, comme vient l'expliquer Emmanuel, on la connaît depuis assez peu. On commence à mesurer son étendue. Et justement, des études comme celles qui montrent que voilà, l'évolution des mammifères va jusqu'à deux fois plus vite à cette période-là sont assez récentes. On est encore en train d'essayer d'en comprendre vraiment le fonctionnement. En fait, il faut savoir, pour essayer de préciser un petit peu les choses, justement, dans cette grande période du Jurassique, cette grande radiation dont on parle a lieu dans ce qu'on appelle le Jurassique moyen, donc la période intermédiaire, qui a lieu grosso modo entre 180 et 160 millions d'années. Et dans le Jurassique inférieur, en fait, on a parlé juste avant de Mégasostrodon, qui est connu tout au début du Jurassique inférieur, et en réalité, on a une espèce d'énorme vide en termes de fossiles dans la deuxième partie du Jurassique inférieur. C'est-à-dire qu'on ne connaît quasiment pas les faunes terrestres à ce moment-là. Et on découvre simplement que, voilà, au Jurassique moyen, elles ont complètement changé. Donc, quelque chose s'est passé à ce moment-là. Malheureusement, quoi, nous ne le savons pas encore.
Est-ce que, dans les hypothèses, on se dit que, du coup, il y a eu malgré tout une extinction. Donc, on parle de niches écologiques qui auraient été inaccessibles à d'autres vertébrés. Et que donc, pour occuper ces niches écologiques laissées libres, ces mammaliaformes ou ces premiers mammifères se sont extrêmement diversifiés parce qu'elles étaient à leur disposition. C'est comme ça qu'on peut comprendre cette diversité évolutive.
C'est difficile à expliquer pour le Mésozoïque et surtout pour le début du Jurassique, parce que est-ce que les radiations des autres groupes, comme les reptiles, les amphibiens, n'avaient pas encore saturé les niches écologiques? Ça, c'est une information que je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'on appelle une niche écologique, déjà, pour bien comprendre?
Une niche écologique, ça correspond à un espace d'adaptation qui a pu être occupé par des groupes, par un certain nombre de groupes de mammifères, et qui correspond à des spécialisations différentes suivant qu'on est, par exemple, dans un environnement arboricole, dans un environnement aquatique, et qui aussi correspond à des adaptations trophiques, alimentaires et locomotrices particulières. Donc, par exemple, quand on a des animaux qui mangent des fruits, on a des animaux qui sont frugivores, qui vont développer une dentition adaptée à ce type de nourriture. Et s'ils s'intéressent à des fruits qui poussent en forêt sur les arbres, ils vont aussi développer un mode locomoteur arboricole. Donc, s'il y a des animaux qui occupent déjà cette niche, ce sera plus difficile pour d'autres groupes nouveaux arrivants de coloniser cette niche dans la mesure où elle est occupée.
Cécile Lestienne ?
Je crois que le message d'Emmanuel Gerbrand est de promouvoir les prochaines recherches paléontologiques sur le terrain. Ça, c'est vraiment très important.
On va entendre un reportage tout à l'heure, justement, de recherches paléontologiques sur le terrain.
Est-ce qu'on peut peut-être aussi parler du fait que c'était bien des animaux à sang chaud, par rapport justement à tous les dinosaures terrestres de l'époque qui étaient bien des animaux à sang froid? Est-ce que le métabolisme plus élevé leur a aussi permis de d'évoluer plus rapidement ou pas du tout?
Et quel avantage ça leur donne par rapport à leurs concurrents en termes d'évolution, Maxime Debuchère?
Alors effectivement, en fait, on va devoir remonter un peu dans le temps.
Alors,
cette question du métabolisme, on va rembobiner un petit peu, parce que justement, on suppose que ce changement de métabolisme chez les mammifères, l'apparition de ce sang chaud, comme on l'appelle, en fait, apparaît justement à peu près au Trias supérieur, et serait entre autres lié à l'allaitement. Parce que justement, l'allaitement serait une réponse à un besoin physiologique important chez les petits. Les nouveau-nés ayant besoin de grandir très rapidement parce qu'ils ont ce sang chaud, donc un métabolisme très élevé, ils ont besoin de beaucoup de nourriture. Donc l'allaitement aurait pu être une réponse à ce besoin, la mère fournissant de la nourriture en grande quantité et de manière concentrée à ces nouveau-nés. Donc, si on suppose l'allaitement au très supérieur, on se dit que le métabolisme était déjà assez élevé à ce moment-là. C'est d'ailleurs pour ça aussi que souvent, dans les représentations, dans les dessins ou même dans les musées, les maquettes dans les musées de ces animaux, de ces mammifères du très supérieur, on leur donne déjà des poils. Parce que qui dit le sang chaud dit le besoin de conserver sa chaleur, et c'est à ça qu'a sert la fourrure, pour réguler la température, la conserver quand il fait froid et la laisser évacuer plus rapidement quand il fait chaud. Alors, en termes davantage évolutif, qu'est-ce que peut apporter le fait d'avoir un métabolisme plus élevé? Le fait d'avoir ce métabolisme élevé a des avantages, mais aussi des coûts. Quand je viens de l'évoquer, les besoins en nourriture qui sont extrêmement importants. Les avantages que cela rapporte, c'est que le fait de réguler sa propre température rend l'animal moins dépendant de son environnement extérieur. Donc il peut se permettre de vivre dans des environnements plus froids, où il ne devra pas attendre que le soleil vienne et lui donne suffisamment d'énergie comme le font les lézards. De fait, ça lui donne une indépendance et donc il a une plus grande possibilité d'adaptation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on observe par exemple au Jurassique moyen justement cette grande radiation Castorocoda, qui est l'un de ces fameux fossiles chinois qui est un mammifère du Jurassique moyen qui a une queue de castor, d'où son nom, et une queue plate, tout à fait comme les castors. Et donc on pense qu'il vivait donc en eau douce, qu'il avait vraiment et qui était vraiment adapté au milieu à un milieu aquatique. Or justement, être en milieu aquatique, c'est se retrouver dans un milieu qui est à une température constante, mais assez basse. Donc pour un animal qui a des grands besoins, il faut pouvoir réguler sa température. Donc ce sont des choses qui sont associées.
Et l'autre question qui se pose et à laquelle vous allez répondre dans quelques instants, c'est que nous sommes donc au Jurassique moyen, nous sommes en pleine expansion de l'ère des dinosaures. Et comment est-ce que ces petites bêtes qui font quelques dizaines, quelques vingtaines de centimètres ont continué à prospérer alors qu'elles étaient entourées de terribles prédateurs? On en parle dans quelques minutes. Thank you.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est 16h34, vous écoutez France Culture. Nous allons poursuivre notre examen de l'évolution de la branche des mammifères. Je rappelle évidemment que vous pouvez toujours, comme chaque jour, nous suivre en direct sur Twitter, @laméthodefc. Nous allons donc essayer de comprendre avec nos invités comment ces petits rongeurs nocturnes ont fini par s'imposer face aux immenses sauriens carnivores. Nous sommes toujours en compagnie de Cécile Lestienne, directrice de la rédaction de Pour la Science, d'Emmanuel Gerbrand, qui est paléomammologue, et de Maxime Debeuil-Squereux, dont j'ai écorché le nom pendant toute la première partie de cette émission, et qui est docteur en paléontologie au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors, je le disais juste avant, le suspense est insoutenable. Comment est-ce qu'ils ont réussi à se maintenir dans la chaîne alimentaire, ces petits mammifères, dans une époque dominée très largement par les grands dinosaures carnassiers, Maxime Debeuil-Squereux?
Là, je vais en profiter pour mettre quelque chose au clair. J'en profite parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En fait, cette question ressort d'une vision un peu biaisée de la diversité actuelle. Souvent, quand on regarde comme ça les documentaires à télé, on voit les grands animaux, on voit les lions, les éléphants, des animaux comme ça assez imposants. Généralement, les gens ont cette vision de la diversité essentiellement des animaux de grande taille. Alors qu'en réalité, l'essentiel de la diversité est composé d'animaux de petite taille. Et même actuellement, parmi les mammifères, si on compte quelques 5000 espèces, eh bien la moitié sont des animaux qui font moins de 40 cm et qui font moins de quelques centaines de grammes. On a quand même toujours une grande partie des mammifères qui sont des petits animaux de petite taille et qui vivent très bien à l'ombre des plus grands. Cette différence... Comment expliquer qu'ils aient pu quand même se développer justement dans ces périodes? Justement, c'est grâce à la notion de... Ça s'explique par la notion de niche écologique que Emmanuel a expliqué un peu plus tôt. C'est vraiment que être petit, ça donne des avantages, ça permet de s'associer à certaines ressources, d'obtenir un certain positionnement dans la chaîne alimentaire qui ne peut pas être occupé par des animaux plus grands et plus empotés.
C'est ce à quoi je voulais vous amener, parce que l'état de proie, ça a des conséquences évolutives sur la sélection, sur les aptitudes développées, et dans cette grande explosion de diversité aussi, Emmanuel Gerbrandt.
Pour reprendre l'exemple que vient de donner Maxime, par exemple le régime insectivore, il est particulièrement intéressant pour les petits mammifères dans la mesure où c'est un régime qui est très énergétique. Donc les petits animaux ont des besoins un métabolisme extrêmement élevé, donc qui dépensent beaucoup d'énergie, qui demandent donc une ressource importante. Et la ressource insectivore est une ressource privilégiée dans ce cas-là quand on est petit, en particulier.
Et puis, il va y avoir une autre évolution de taille qui va accompagner cette diversification des premiers mammifères. C'est l'apparition, plus tard, on avance un peu, au Crétacé, des angiospermes, les plantes à fleurs. Et ça, ça va changer beaucoup de choses. Ça, c'est énorme, Maxime Debeuil-Squereux.
Oui, effectivement, l'apparition des angiospermes va changer beaucoup de choses, simplement parce que les angiospermes vont vraiment avoir un succès absolument fulgurant au Crétacé. On va les voir apparaître et se développer très rapidement et donc bouleverser complètement toutes les flores qu'on connaît à l'époque. Et évidemment, si on modifie toute la flore, toute la faune suit en conséquence. Et d'ailleurs, les mammifères sont pas les seuls intéressés par ces choses-là, parce qu'on observe également à ce moment-là, chez les insectes, énormément de développement, vu qu'on voit apparaître tous les groupes d'insectes pollinisateurs qui sont connus actuellement, qui apparaissent à ce moment-là.
Cécile Lestienne.
Donc ça diversifie beaucoup les possibilités de se nourrir. Il y a les angiospermes, et donc il y a des fleurs, il y a des fruits, il y a de nouveaux insectes à manger, et ça leur permet effectivement de s'installer dans de nouvelles niches écologiques.
Et oui, Emmanuel Gerbrandt.
Alors, c'est d'autant plus intéressant pour des animaux qui sont déjà insectivores, qui sont déjà de petite taille. Il va y avoir une explosion à la fois des insectes et des plantes. Il se trouve, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, que c'est lié à une coévolution chez les mammifères, la dentition. Et c'est là où apparaît justement cette dent un peu moderne, je dirais même qui est fondamentale, qui est la dent moderne avec qui a les fonctions anciennes de couper et de piquer, mais qui en plus a la fonction de broyer. Et la fonction de broyer est très importante pour pouvoir avoir un régime herbivore, et notamment à base de plantes à fleurs, que ce soit les fruits ou les feuilles. La fonction de broyage, elle permet d'écraser et de réduire la nourriture plus avant, et donc de tirer le maximum d'énergie d'une alimentation qui est en elle-même pas forcément très riche. Quand on compare par exemple aux insectes. Et c'est ce qui a permis cette lignée des mammifères modernes d'évoluer de façon très rapide, de façon quasiment coévolutive avec les plantes à fleurs. Ils se sont mis dans cette niche écologique pour exploiter cette nourriture grâce à une nouvelle fonction qui peut être développé grâce à une nouvelle dent. Et on va voir, c'est ça qui va permettre au groupe des terriens, les mammifères modernes, d'évoluer pendant tout le Crétacé et d'avoir toutes les armes pour développer une radiation adaptative extraordinaire au début du tertiaire, après l'extinction des dinosaures, quand ces niches herbivores vont être véritablement libérées après l'extinction des dinosaures herbivores en particulier.
Alors on va arriver à cette deuxième extinction. Vous le disiez à l'instant, Emmanuel Garbrandt, c'est à ce moment-là qu'apparaissent en fait les branches qui vont donner lieu aux mammifères modernes, c'est-à-dire avec à la fois la branche marsupiale et à la fois la branche placentaire. Maxime de Buxquereux.
Oui, effectivement, c'est au Crétacé. Mais puisqu'on parlait, un peu des monotrèmes au tout début. Il faut quand même un peu les replacer.
Les remettre dedans, les remettre c'est la troisième grande branche. Mais eux, ils existaient déjà.
Ils existaient déjà avant, parce que justement, c'est au Jurassique moyen, approximativement, qu'on observe justement la séparation entre la branche des monotrèmes, dont il ne reste aujourd'hui
que...
Qui continuent à pondre des œufs, dont il ne reste aujourd'hui que l'oréthorynque et l'échidné. Et l'autre côté, la grande branche des terriens, qui comprend donc les marsupiaux et placentaires. Grande branche qui va à nouveau connaître une subdivision majeure au moment du Crétacé, avec la grande diversification d'un côté des placentaires et des marsupiaux, enfin de groupes anciens, primitifs, de marsupiaux et de placentaires.
Marsupiaux donc qui ont une poche ventrale pour développer leurs petits. Puisque nous avançons dans le temps et dans l'émission, puisqu'il ne nous reste plus qu'une vingtaine de minutes, et dans l'histoire de l'évolution, tombe l'astéroïde, le fameux et la série de cataclysmes qui va avec, nuages de poussière, raz de marée, tremblement de terre, les dinosaures, sauf les oiseaux, n'y survivront pas. Pourquoi les mammifères y survivent-ils, Maxime de Buxquereux? Là aussi, c'est une énigme. Pourquoi est-ce qu'ils s'en sortent?
C'est une énigme.
Pas tous. Alors,
pas tous survivent. Il y a aussi une grande extinction.
Effectivement, j'allais y venir. Alors. Justement, c'est que on a souvent cette idée que les mammifères passent tous sereinement la crise crétacé-tertiaire sans avoir trop de soucis, alors qu'en fait, ils en souffrent terriblement. Il y a comme ça des belles figures qui ont été montrées. On a un arbre phylogénétique un peu semblable à celui qui est ensuite pour la science, mais qui est un peu plus détaillé. On voit bien que au moment de la crise crétacé-tertiaire, il y a environ 18 lignées de mammifères qui existent. Seules 6 passent la crise. Donc on a quand même les deux tiers des mammifères qui disparaissent. Donc ils souffrent quand même de la crise, ils la sentent passer.
C'est-à-dire qu'en fait, pour expliquer un peu pourquoi ils souffrent, c'est aussi parce que tout ce qu'on appelle le réseau trophique des dinosaures, tout ce qui est lié finalement au réseau évolutif alimentaire des dinosaures, tout s'effondre en fait, en chaîne en quelque sorte.
Oui, effectivement, parce que en fait, la crise touche énormément de groupes différents. On parle souvent des lézards terribles, des mammifères, et on oublie souvent beaucoup d'autres groupes, certains assez impressionnants comme les mosasaures, les ptérosaures, d'autres plus discrets comme les ammonites, les bélénites, les rudistes, et aussi beaucoup de groupes de plantes qui aussi souffrent énormément. Et naturellement, cela sape complètement toute la structure des chaînes trophiques. Tous les écosystèmes en fait sont touchés à plusieurs niveaux. Et naturellement, quand la nourriture se fait rare, les différentes espèces en souffrent énormément. Certaines peuvent y survivre. Alors, qu'est-ce qui a permis comme ça, à certains groupes de mammifères de relativement bien s'en sortir? Là aussi, c'est un peu c'est aussi la grande question.
Emmanuel Garbrandt prend le relais de cette histoire, de cette longue histoire.
Il se trouve, pour poursuivre l'histoire des dents, que les mammifères donc qui ont inventé cette dent tribosphénique moderne étaient adaptés à un régime insectivore et herbivore, et notamment en base de plantes à fleurs. Or, ce sont les deux groupes, les insectes et les plantes à fleurs, qui ont largement survécu à la limite crétacé-tertiaire, et donc ça leur a permis d'évoluer ensemble et de continuer à trouver tout ce qu'il fallait pour se développer, pour se nourrir après la limite crétacé-tertiaire. Cela dit, il y a quand même des énigmes. Par exemple, les marsupiaux, on a observé ça dans les couches du passage crétacé-tertiaire en Amérique du Nord, qui sont parmi les plus représentatives, puisqu'on a des épaisseurs de centaines de mètres à ce passage-là avec des fossiles. On a observé que chez les marsupiaux, les deux tiers des espèces présentes à la fin du crétacé s'éteignent. Il ne reste que la lignée des opossums. Donc il y a eu aussi des extinctions très importantes, pas seulement chez les mammifères primitifs du Mésozoïque, mais aussi chez les terriens, et en particulier chez les marsupiaux. Chez les placentaires, il y a eu moins d'extinctions.
C'est à ce moment-là qu'on va parler de quelque chose qui va aboutir au développement d'une des branches des mammifères. On parle de révolution placentaire, c'est ça ? Maxime de Buisquereux. Ah non, Emmanuel Gerbrandt, la révolution placentaire, c'est plutôt votre domaine.
Oui, alors bon, c'est la radiation adaptative la plus spectaculaire au début du tertiaire, c'est celle des placentaires. Mmh. Mais on a aussi une radiation adaptative assez remarquable des marsupiaux en Amérique du Sud et en Australie. La radiation des marsupiaux la plus spectaculaire, on l'observe à partir d'époques un peu plus récentes, à partir de l'Oligocène.
Donc à combien d'années?
Admettons vers 34 millions d'années, peut-être jusqu'à 45 millions d'années, et puis après dans les périodes postérieures. Et cette radiation la plus spectaculaire des marsupiaux, elle est surtout australienne. Il y a eu une petite radiation de marsupiaux en Amérique du Sud, mais elle est quand même moins impressionnante. Mmh. Par contre, ce qui s'est passé pour les placentaires, c'est qu'on a vraiment eu une explosion de diverses lignées. Dès le début du tertiaire, c'est-à-dire pendant le Paléocène, mais pendant le Paléocène, ce sont surtout des lignées, ce sont des essais évolutifs en quelque sorte, qui vont pas forcément aboutir. Et à partir du début de l'Éocène, vers 55 millions d'années, on a pratiquement tous les ordres actuels qui sont représentés, les 18 ordres qui sont actuels qui sont présents.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on constate, après l'extinction du Crétacé tertiaire, on constate une évolution, une arrivée au pouvoir des mammifères extrêmement rapide. Hein. J'ai lu, en 500 000 ans après la chute de l'astéroïde, on a déjà, vous le dites, quasiment la totalité des règnes qui sont ceux d'aujourd'hui.
Non, c'est pas comme ça
que ça
se passe.
C'est pas tout à fait ça. Non. C'est moi qui vais trop vite, allez-y.
Il y a une radiation, à l'échelle du temps, des millions d'années et du tertiaire, il y a une radiation adaptative qui est très rapide, qui va se mettre en place pendant une quinzaine de millions d'années jusqu'au début de l'Éocène. Par contre, il y a quand même un phénomène extraordinaire qu'on observe juste au passage Crétacé-Tertiaire, c'est qu'on a des évolutions très rapides. On n'a pas forcément toutes les lignées actuelles qui vont être représentées, mais on va observer par exemple des augmentations fulgurantes de la taille dans différentes lignées dès le début de ce premier million d'années après la crise Crétacé-Tertiaire. Et de la même façon, on va avoir des groupes qui vont évoluer très rapidement avec des diversifications. Ce ne sont pas des groupes actuels, ce qu'on appelle les condylarthres en fait, c'est les ongulés archaïques. Et on va avoir multiplication d'espèces et de genres pendant ces premiers temps après au début du tertiaire.
Maxime de Buisquereux.
Oui, je voudrais en fait rebondir sur cette question de l'augmentation fulgurante de la taille tout début du Cénozoïque pour replacer un petit peu les choses, enfin, reprendre un peu vraiment sur le temps pour comparer avec l'essentiel de l'histoire des mammifères dans le Mésozoïque. Les mammifères, les mammaliaformes du Trias supérieur il y a 200 millions d'années sont vraiment des petits animaux qui font moins d'une centaine de grammes. On a souvent donné la taille de la musaraigne. Effectivement, c'est facile à visualiser, ils tiennent dans la paume de la main. Ce sont des animaux qui font la largeur de la paume de la main d'un adulte. Par contre, au Jurassique moyen, on observe déjà une petite augmentation de la taille. Par exemple, j'évoquais Castorocoda un peu plus tôt. Eh bien, c'est un animal qui fait déjà dans les 40 cm de longueur pour 500 à 800 grammes. Un poids déjà un peu plus conséquent. Au Crétacé, on a le plus grand mammifère mésozoïque connu, qui s'appelle Repenomamus, et qui lui avait plus ou moins la taille d'un renard, voire d'un blaireau. Donc,
qui mangeait les dinosaures. C'est la couverture. C'est la couverture pour la science.
Tout à fait, celui qui fait la couverture.
Les mammifères qui mangent des dinosaures, c'est pas quelque chose de contre-intuitif, ça, tout de même.
C'est pour ça qu'on n'a pas pu résister à mettre cette image à couverture.
Ah oui, il est souvent utilisé, et c'est quelque chose qui est bien connu, parce que par chance, justement, le premier fossile découvert de Repenomamus a eu justement des restes de petits
dinosaures.
De ces petits animaux capturés à l'intérieur de sa cage jurassique qui montraient bien qu'ils les avaient mangés. Et Repenomamus, mais comme je disais, c'est le plus grand et il fait à peine 6-7 kilos. C'est vraiment le plus petit. Alors que tout de suite après la crise Crétacé-Tertiaire, on voit arriver plusieurs animaux qui font 10 kilos, puis des dizaines de kilos, puis à dépasse la centaine de kilos. Donc ça, c'est vraiment un changement très important en termes de taille.
Alors, on va justement retrouver cette diversité, puis je vous poserai tout de même aussi une question quand même sur les raisons. Alors je vais vous la poser tout de suite et puis on entendra le reportage juste après. Mais tout de même une question en quelques mots. Comment est-ce qu'on explique l'avantage évolutif des placentaires par exemple sur les marsupiaux? Pourquoi est-ce que c'est les placentaires qui s'imposent finalement dans l'évolution humaine garbante? Qu'est-ce que ça donne comme avantage par rapport aux autres?
Il y a plusieurs explications, mais une explication fondamentale, et c'est d'ailleurs un des grands paramètres des trois grands groupes de mammifères, c'est le mode de reproduction. Ce qui caractérise les placentaires, c'est que le petit va se développer jusqu'à terme. L'embryon va poursuivre son développement jusqu'au maximum. Et donc, quand le petit va naître, il sera quasiment fonctionnel tout de suite. Et ça, c'est un avantage adaptatif extrêmement important. Chez les marsupiaux, par exemple, on a un développement. L'embryon naît beaucoup plus tôt et il finit son développement dans la poche. Et donc, il y a une dépendance parental par rapport à ça. Tandis que les placentaires sont beaucoup plus indépendants.
Alors, on a parlé de l'extrême diversification post-chute de l'astéroïde, et on a parlé également de l'importance des fouilles et de retrouver cette diversité de fossiles. Eh bien, nous avons tout en Céline Lozen, en quelque sorte. Bonjour Céline.
Bonjour Nicolas. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous présenter tout, mais en tout cas, je suis allée à la Sablière d'Orgemont, une carrière qui se situe dans une réserve naturelle géologique près d'Itteville dans l'Essonne.
Et vous avez retrouvé donc en pleine région parisienne des fossiles d'animaux de la savane. Il va falloir nous expliquer ça, Céline.
Oui, des restes des lointains cousins de nos rhinocéros, antilopes ou autres hippopotames. Alors ça peut paraître surprenant, mais il faut se rappeler qu'ici même, dans le bassin parisien, il y a environ 30 millions d'années, on est à l'époque de l'Oligocène, plus précisément du Stampien. Le climat devient plus aride, la mer qui recouvre la région se retire progressivement et une faune vient migrer ici, une faune qui laissera des fossiles très bien conservés pour plus grand bonheur des paléontologues. Et on peut donc retrouver ici des mandibules de Rosontorium romani et de Bachyter ou des dents de tapir et d'anthracotère, un gisement exceptionnel que m'a fait découvrir Renaud Bourget, garde technicien des sites géologiques de l'Essonne, et Grégoire Martin, conservateur de la réserve naturelle.
Là, on est sur la Sablière d'Orgemont. On a retrouvé récemment des restes de mammifères qui datent de 29,5 millions d'années.
Un petit peu plus ancien. C'est-à-dire, on est ici à peu près... c'est un peu dur en géologie, de toute façon, d'avoir un âge estimatif, on va dire 30-31 millions d'années. En fait, c'est un site qui a été fouillé dans les années 80 par des... à l'époque, on pourrait dire, c'était des amateurs qui maintenant sont devenus géologues ou paléontologues au muséum et qui ont effectivement fait découvrir dans la partie haute du site des restes donc, de mammifères terrestres. Voilà. Donc en fait, par pur hasard, c'est-à-dire qu'à l'époque, ils exploitaient donc le sable. Et puis un jour, ils sont passés dans le coin, ils se sont aperçus qu'il y avait une exploitation. Ils ont été cherchés, comme d'habitude. Quand on aime la paléontologie, on est un petit peu curieux. On va forcément aller voir s'il n'y a pas des fossiles qui traînent. Et puis par pur hasard, ils pensaient plutôt trouver des restes de fossiles marins, puisque c'est plutôt le cas dans la région. Il y a toute une faune en fait annexe qui est assez intéressante.
Bonjour.
Bonjour, je suis Grégoire Martin, le conservateur de la réserve naturelle nationale géologique de l'Essonne. Alors là, on est au bord d'un petit sentier forestier. On est entouré d'une végétation forestière, donc avec principalement des érables, des chênes. Et c'est une ancienne carrière sur laquelle on exploitait les sables de Fontainebleau. Et donc là, on a une espèce de trou béant avec ce qu'on appelle un front de taille. Donc là, on a un front sableux qui monte à 7-8 mètres de haut. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez impressionnant. La particularité de ce site provient de la découverte exceptionnelle de fossiles de vertébrés, donc crocodiles et rhinocéros par exemple, et mollusques continentaux. Alors ces vestiges paléontologiques ont un grand intérêt parce qu'ils permettent de reconstituer la faune des environs d'Itteville il y a environ 29,5 millions d'années.
Ce qui va se passer, c'est qu'entre l'Éocène et l'Oligocène, on va avoir en fait un événement qu'on appelle d'ailleurs la grande coupure de Stéline, du nom du paléontologue qui a découvert un petit peu ça, c'est qu'en fait, on va vraiment avoir un changement de faune au niveau notamment des mammifères. Pas que des mammifères, bien entendu, il y a aussi les plantes. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'à la fin de l'Éocène, début de l'Oligocène, il y a plein de plantes, d'animaux qui vont disparaître à cause justement d'un changement climatique. C'est-à-dire qu'on passe vraiment d'un climat à effet de serre à un climat presque celui qu'on a aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est-à-dire période glaciaire, interglaciaire qui n'existait pas avant. Voilà. Donc le climat en fait va se refroidir, il parle même des fois de baisse de température de l'ordre de 13 degrés. Il y a des familles qui vont disparaître, de mammifères notamment. Et ce qui va se passer, à l'Oligocène, la paléogéographie va un petit peu changer. C'est-à-dire que notamment, il y a des ouvertures qui vont se faire entre l'Asie et l'Europe. Et donc, toutes ces niches écologiques sont plus occupées par les mammifères éocènes qui ont disparu. Elles vont être occupées par des immigrants qui viennent d'Asie, notamment les rhinocéros. Donc on va avoir ici sur Itteville, qui sont relativement bien représentés. Et puis après, autre exemple aussi, on va avoir ce qu'on appelle l'antélodon, qui est une sorte de gros cochon géant, pareil, qui vient d'Asie. Donc voilà, vraiment...
Il y a un brassage d'espèces à cette époque-là, une circulation. Ouais,
c'est ça, exactement. Et à l'époque, il n'y avait pas de problème, notamment... On ne faisait pas tout un pataquès sur les immigrants. À l'époque, voilà, il y avait vraiment un échange qui s'est fait, qui est assez visible. Notamment le bassin parisien, c'est intéressant puisqu'on a des gisements éocènes où on voit très bien la faune mammifère.
Ça, ce sont des moulages de fossiles.
Voilà, c'est ça. Donc la star du gisement, c'est ce qu'on appelle donc le Rosontorium romani. C'est un rhinocéros, il ne faut pas imaginer un rhinocéros noir ou un rhinocéros blanc actuel, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus gracile, Bon, il fait quand même une tonne, hein, donc ça reste quand même un animal relativement gros. Il n'a pas de cornes, voilà. Et c'était plutôt un animal qu'on va dire coureur. Alors après, d'autres animaux qu'on pourrait trouver à l'époque. Alors, je vais sortir mes petits documents. Donc par exemple, à la Ferté-Alée, mais voilà, ça doit être le cas Edwin, il y avait du tapir par exemple. Hein. Le tapir est présent ici, on a trouvé une ou deux dents. Donc il faut imaginer qu'on a peut-être des zones un petit peu plus humides, des marais. On va avoir après aussi ce qu'on a tout à l'heure, l'anthracotère. Donc l'anthracotère, c'est un animal qui n'existe plus aujourd'hui, qui ressemble un petit peu à un hippopotame. Assez court sur pattes quand même. Et il avait vraiment en fait des, si vous voulez, des pattes vraiment adaptées pour un milieu humide. Il vivait vraiment dans les zones de marais et tout quoi. Donc en fait après, il y a le fameux antélonon. Il faut imaginer un cochon géant. Il peut faire jusqu'à, je crois qu'à 1,80 m de garrot pour certaines espèces. Ici je pense qu'il est quand même un peu plus petit. Il y a un animal ici qu'on trouve beaucoup qui s'appelle le bachytère, qui ressemble à une toute petite antilope. Hein. Donc d'ailleurs j'ai quelques mandibules, je pourrais vous montrer après. Lui il est pas très haut, il fait 1 m au garrot et c'est pas improbable justement qu'il se faisait de temps en temps manger par justement l'antélodon quoi. Ensuite ici on a trouvé aussi des restes d'hamster. Et pareil, ça aussi c'est un féodé plutôt assez milieu de steppe, hein. Il devait faire ses terriers, il devait vivre dans ce secteur là. C'était vraiment son environnement. On va trouver de la musaraigne. Alors la musaraigne est déjà présente à cette époque là. Alors pareil, hein, c'est un ancêtre, un cousin très éloigné. Et donc ces animaux là, qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est que bah, ils sont morts et ils sont tombés probablement au fond de l'eau quoi. Et ils ont été recouverts relativement vite quoi. C'est pas comme justement un cadavre qui va être transporté par la rivière puis en milieu marin qui va subir plein d'altérations, on va trouver une dent qui peut être abîmée. Là vraiment le matériel ici est quand même relativement frais, surtout les dents sont très très bien conservées.
La réserve naturelle géologique travaille en concertation avec les chercheurs des universités de Paris et avec des conseils scientifiques également pour s'assurer que toutes nos décisions, nos choix, nos actions sont dans la bonne direction. On consulte quotidiennement les paléontologues et les géologues.
Voilà, pour conclure ce reportage de Céline Lozel, en quelques mots, hein, on entendait, on est à 30 millions d'années, on a vraiment, vraiment radicalement changé d'échelle pour les mammifères. Bon, ça s'est énormément diversifié, on l'a entendu, mais là, on est sur des animaux, on commence à être sur des animaux géants. C'est parce que bah, là aussi, il y avait des niches écologiques, tout ça, cette diversification-là, Maxime de Beusquereux, Emmanuel Garbrandt, sur le changement d'échelle de ces petits mammifères, ce dont parlait Maxime tout à l'heure, qui faisaient à peine une vingtaine de centimètres et qui ont, en quelques millions d'années, passent reprennent la place que les dinosaures ont laissé vacante en quelque sorte.
Oui, absolument. Bon, ça s'est fait en plusieurs temps. Les premiers grands mammifères de la taille d'un rhinocéros, ils apparaissent à la fin du Paléocène, début de l'Éocène, vers 55 millions d'années. Ce sont des lignées archaïques, donc ils n'ont rien à voir avec les groupes modernes.
Comme ce qu'on entendait dans le
voilà.
Partage.
Par contre, ces groupes plus modernes, ils vont apparaître dans l'Éocène supérieur et le début de l'Oligocène, c'est-à-dire vers 40, 36 millions d'années, quelque chose comme ça. Et là, on va avoir des faunes de cachets vraiment typiquement modernes, avec des grands brouteurs, des grands herbivores.
Voilà, et c'est une autre histoire qu'on racontera, celle de l'évolution depuis cette époque jusqu'à l'être humain et l'apparition des primates. On n'en a pas parlé, mais on en reparlera dans une autre émission. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Cécile Lestienne, je rappelle, si vous voulez en savoir plus, très bon numéro pour la science avec en couverture le surprenant succès des mammifères au temps des dinosaures. C'est dans tous les bons kiosques près de chez vous. Merci également à Emmanuel Garbrandt et à Maxime de Beusquereux, décidément. Désolé d'avoir écorché votre nom. Et merci à vous, puisque vous pouvez podcaster cette émission sur franceculture.fr. Vous avez été nombreux à le faire au mois de septembre avec près de 308 000 podcasts, donc on voulait vous remercier et continuer. N'hésitez pas à diffuser la bonne parole de la méthode scientifique tout autour de vous. Merci à toute l'équipe, Evette Thienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen et Léo Quentin, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Jean-Guilain Meige et au droit d'auteur Sophie Salio-Marie. Demain, nous irons prendre des nouvelles des pôles, du pôle Nord et du pôle Sud, des pôles qui sont particulièrement sensibles aux conséquences du réchauffement climatique. Dans un instant, nouvelle semaine de LSD, la série documentaire orchestrée par Perrine Kervran, une semaine frontalière où il sera question de bordure. Et nous, bah, comme d'habitude, on se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.